nous, les hommes et les femmes, pour avoir les idées claires, on a l'habitude de trier, on a l'habitude de mettre les choses dans des catégories. On dit qu'on met les choses et les personnes en boîte en général. Je me régale toujours avec cet extrait du western de Sergio Leone. Certains d'entre vous l'ont sans doute déjà vu. Le bon, la brute et le truand. Ouais, ça vous dit quelque chose ? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Pourquoi je vous raconte ça ? Déjà pour le plaisir de réentendre cet extrait de... Mais surtout parce qu'on fonctionne exactement de la même façon en Église. Exemple. On aime bien faire des catégories aussi dans les Églises. Tu vois ? Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Les chrétiens et les non-chrétiens. À la rigueur, on serait prêt à accepter une espèce de troisième catégorie, une catégorie intermédiaire. Ceux qui ne savent pas trop où ils en sont, ceux qui ne savent pas trop s'ils croient ou s'ils ne croient pas. On appelle cela les agnostiques. Mais ce qui est vraiment remarquable dans la bouche de Jésus, c'est qu'en fait, il dynamite complètement nos catégories dans ce passage. Regardez avec moi. Il y a trois catégories de personnes dans ce récit. Il y a les amis de Jésus, ses disciples. On part de l'idée qu'ils croient en Jésus, eux. Il y a les ennemis de Jésus, les spécialistes de la loi, ici en l'occurrence, qui ne croient pas en lui, clairement. Et puis il y a ce père qui est un peu au centre et qui ne sait pas s'il doit croire ou pas et qui a du mal à croire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ici ? Eh bien en fait, ces trois catégories-là, il les met dans le même panier. Écoutez-le, verset 19. Peuple incrédule. Il s'adresse à tous là. Peuple incrédule. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Le verdict de Jésus, eh bien, il est le même pour chacune des catégories. L'incrédulité, finalement, ça nous concerne tous, que nous soyons croyants. Et là, ça peut paraître paradoxal, mais on verra que ça ne l'est pas. Que nous soyons croyants, athées ou agnostiques, notre problème, c'est l'incrédulité, nous dit Jésus ici. Et c'est ce qu'on va voir. Au verset 29, Jésus explique à ses disciples pourquoi ils n'ont pas réussi l'exorcisme, pourquoi ils n'ont pas réussi à guérir cet enfant malade, et les bras nous en tombent. C'est parce qu'ils n'ont pas prié. Mais sur quelle force comptaient-ils pour guérir l'enfant malade ? Sur leur propre force ? Plutôt que de s'adresser à Dieu qui est tout-puissant ? C'est bien une question d'incrédulité ici, le problème. Et on est tous concernés ce matin, que nous nous revendiquions de Jésus ou pas. À chaque fois que nous comptons sur nous-mêmes sans nous adresser à Dieu, nous courons exactement le même problème que les disciples dans ce passage. Mais il y a une bonne nouvelle néanmoins dans ce récit. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, il veut nous faire sortir de notre incrédulité. Et c'est ce que nous regardons ensemble en analysant cet épisode de la vie de Jésus. Trois questions. Trois questions pour nous faire sortir de notre incrédulité. D'abord, c'est pourquoi, qui et quoi ? On va les voir ensemble progressivement. Allez, c'est parti. Pourquoi sommes-nous invités à croire ? Vous allez voir comment ça nous fait sortir de notre incrédulité. Donc, c'est quoi le tableau qui s'offre à nos yeux quand Jésus descend de la montagne avec ses trois amis ? Eh bien, c'est une sorte de tableau apocalyptique. Il y a un enfant qui souffre en bas de la montagne. Et Marc... Il le décrit cet enfant à plein de reprises. Versets 17, 18, 20, 21, 22, il y revient sans arrêt, il y revient trois fois en fait sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'il y a un esprit mauvais qui perturbe l'enfant depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il est comme ça. Cet esprit le rend sourd, muet, le fait tomber par terre. Cet esprit veut sa mort, il le fait tomber dans le feu et dans l'eau. Il devient raide. Il écume de la bouche. Je ne sais pas si on se rend compte de l'enfer que vit cet enfant. Vivre comme ça. Premier élément du tableau apocalyptique, un enfant qui souffre. Le deuxième élément, un père qui est complètement impuissant face à la souffrance de son enfant. Quelle horreur aussi pour un père que de ne pouvoir rien faire pour aider son fils qui ne va pas bien. Un père qui a espéré, qui a amené son fils au devant des disciples. Et puis l'espoir est mort. Pas complètement.
Mais en tout cas, l'espoir a été déçu par les disciples qui n'ont pas pu guérir. Mais on se rend compte que malgré ça, le Père, il a encore cette espèce de flamme qui le pousse toujours à vouloir la guérison de son fils. Vous connaissez ce dicton, l'espoir fait vivre. On le voit ici. Le Père, il est prêt à s'accrocher à tout pour espérer guérir son enfant. Mais c'est sans doute avec les larmes plein les yeux qu'on peut dire ça. L'espoir fait vivre ici dans ce passage. Donc, un enfant qui souffre, un père impuissant face à ce qui arrive à son fils, et le troisième élément du monde qui va mal, une querelle d'ego. Une querelle d'ego entre qui et qui, entre les disciples qui ont raté leur exorcisme et les spécialistes de la loi qui sont sans doute venus les critiquer et qui se réjouissent du fait que, eh ben, ils ont raté leur exorcisme. Pourquoi ils se réjouissent ? Parce qu'ils vont pouvoir finalement discréditer Jésus, discréditer les disciples en même temps. Pourquoi nous sommes invités à croire ? Parce que le monde va mal, un enfant qui souffre, un père impuissant, une querelle d'ego. Et là aussi, quelle tristesse ! On a un enfant qui souffre, et la souffrance de cet enfant est occultée par quoi ? Par des adultes qui se querellent. Par des mots, quoi, des querelles de mots. Tableau parlant de la misère de notre monde sans Dieu. Paradoxe d'un espoir, celui du Père, qui refuse de mourir malgré le tableau désespérant qu'il a devant lui. On pourrait dire que ce qu'on a devant nous, là, c'est le mal absolu. Parce qu'il y a peu de choses aussi absurdes et tragiques qu'un enfant qui souffre. Et que des parents qui ne peuvent rien faire pour leur enfant. Lorsque le mal n'épargne même pas les plus fragiles, eh bien, c'est le rappel qu'il y a quelque chose dans notre monde qui ne tourne pas rond. Et dans ces situations, de quoi avons-nous besoin ? Eh bien, on a besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus puissant qui peut résoudre nos problèmes. Cette impuissance du Père qui est totale, elle nous renvoie à notre impuissance d'humain face au mal. Mais le Père, lui, il refuse de baisser les bras. Il se tourne vers Jésus. Si tu peux faire quelque chose. Le Père n'est pas trop sûr, hein. Il émet des doutes sur les capacités de Jésus, mais il s'accroche quand même, il refuse de renoncer à l'espoir, même quand il n'a plus aucune raison objective d'espérer. À travers ce récit, alors, pourquoi est-ce qu'on est invité à croire ? Eh bien, parce qu'il y a un espoir. Il y a un espoir au sein même de notre misère. Les athées se moquent en général régulièrement de cet espoir que les chrétiens ont. Mais pourtant, là, si on y réfléchit bien, l'athéisme, c'est creux. Parce que si on éveille, on peut essayer d'évacuer Dieu de l'équation, mais si on évacue Dieu de l'équation, on en reste avec les mêmes problèmes. Une souffrance sans solution, une impuissance du Père sans solution, une querelle d'ego sans solution. L'athéisme n'est pas victorieux ici, loin de là. Il y a un véritable espoir pour nous au sein même de notre misère. Alors quand on dit ça, ça fait un peu Père Noël, quoi. Ça fait un peu à Noël, venez, tout est bon, tout est gentil, il y a des cadeaux au pied du sapin. Mais c'est là qu'il nous faut réfléchir à qui. Qui c'est qui nous propose cet espoir dans ce monde qui ne va pas bien ? Et c'est la deuxième question à laquelle nous réfléchissons. Qui nous invite à croire ? Eh bien, c'est simple, c'est Jésus qui nous invite à croire et on va voir que ce n'est pas n'importe qui ici en l'occurrence. Parce que Jésus, il arrive avec des arguments de poids dans ce récit. Vous connaissez avec les GBU là, Élise qui est descendue dans la rue avec les GBUciens, on a sondé, je ne sais plus combien, 130 et quelques étudiants palois en leur demandant quelle était la question première qu'ils poseraient à Dieu s'ils avaient Dieu devant eux. Et la question qui est ressortie en numéro 1, c'est si Dieu existe, pourquoi le mal ? Et il y a des arguments que les non-chrétiens utilisent contre les chrétiens. Ils disent, si la souffrance existe, si le mal existe, alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Dieu n'est pas bon pour laisser permettre une telle souffrance. Et le deuxième argument qu'ils utilisent, c'est si la souffrance existe, ça veut dire que Dieu n'est pas tout-puissant d'une certaine façon et qu'il n'arrive pas à la résorber. Ce mal et cette souffrance. Et on va voir comment Jésus répond à ces deux questions aujourd'hui. Il a des arguments de poids, Jésus. On va voir qu'il est bon et qu'il est tout puissant. Et il le montre parfaitement bien dans ce passage. Alors, on repart un peu en arrière. Le Père, on repart du Père qui émettait des doutes. Si tu peux le faire, Est-ce que tu peux vraiment le faire? Est-ce que vraiment tu es tout puissant ou pas? C'est la question qu'il y a derrière la question du Père. Et Jésus, ben, il reprend le Père. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on est dans le monde des bisounours, il suffit de croire n'importe quoi et ça va se produire? Est-ce que c'est vraiment ça? On connaît tous, hein, ce type de phrase dans la société aujourd'hui. Vous connaissez peut-être ça. Tu peux faire ce que tu veux, il suffit d'y croire. C'est un peu de l'autosuggestion, tout ça. Il suffirait de croire à une chose pour qu'elle puisse arriver. La réponse est non. Il ne suffit pas de croire à une chose pour qu'elle arrive. On entend aussi parfois, ça n'a pas fonctionné parce que tu n'y crois pas suffisamment. Non, vous avez déjà entendu ça? Mais ça, c'est pareil. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Prenez l'exemple du Père. Est-ce qu'il y croyait, le Père? Est-ce qu'il avait une foi énorme, le Père? Il avait une foi que lui-même qualifie d'incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que ça a fonctionné parce que sa foi était grande? Non, elle était minuscule, elle était microscopique, sa foi. Mais pourquoi ça a marché? Parce que cette foi microscopique, il l'avait placée sur la bonne personne. C'est comme quand vous êtes à l'hippodrome, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hippodrome de Pau, si vous avez misé sur un cheval. Ben, si vous ne misez pas sur le bon cheval, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, il n'arrivera pas en tête. C'est pareil, vous pouvez être convaincu que c'est le 17 qui va gagner, mais il peut perdre. Et vous pouvez être complètement incertain du 15, mais à la fin, si c'est le 15 qui doit gagner, vous gagnerez, vous aurez misé sur le bon cheval. C'est pareil avec Jésus. Ce n'est pas une question de quantité de foi, c'est une question de qui, sur qui le peu de foi que vous avez repose. Le Père n'a pas été exaucé parce qu'il avait beaucoup de foi, il a été exaucé parce qu'il l'avait placé au bon endroit. Et le Père, d'une certaine façon, c'est le héros de cette histoire. Le héros parce qu'il a reconnu qu'il n'y arrivait pas, il a reconnu qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul, qu'il était bloqué dans ses propres raisonnements. Et il a appelé à l'aide. Je crois, mais viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Et ce n'est pas une contradiction finalement. Je crois, mais viens au secours parce que je ne crois pas. C'est juste ce qu'on a tous au fond du cœur. On croit, mais on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut douter? Est-ce qu'il faut être convaincu? On a tous ce problème-là au fond de nous. Et alors, est-ce que Jésus a été capable de faire quelque chose? Est-ce qu'il est impuissant? Ou est-ce qu'il est tout puissant? Regardez, à la seconde même où Jésus intervient et se rapproche, changement de terreur. Qui terrorisait jusqu'alors? C'était l'esprit mauvais. Et au moment même où Jésus s'approche, c'est l'esprit mauvais qui est terrorisé. Il se roule par terre à travers l'enfant. Et on se doute que, comme dans les exorcismes précédents dans l'évangile de Marc, c'est comme pour dire, mais surtout ne fais rien Jésus. Il a peur l'esprit mauvais, parce qu'il sait très bien ce qui l'attend. Il sait très bien ce qu'il attend. Et Jésus, comment est-ce qu'il délivre l'enfant? Est-ce que c'est compliqué? Une simple parole. Une simple parole et l'enfant est guéri. Esprit qui rend sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Et la violence de cette confrontation est telle que l'enfant tombe et tout le monde est convaincu qu'il est mort dans l'assemblée. Dieu est puissant. Il est tout puissant. Pour en être convaincu, eh bien, relisez ce récit dans la semaine et regardez le père de cet enfant. Regardez la guérison de cet enfant. Regardez les témoins qui témoignent justement que Jésus est tout puissant. Ok, premier problème en moins. Dieu est tout puissant et il nous le montre parfaitement bien dans cet épisode. Et est-ce que Dieu est bon? Est-ce qu'il est bienveillant? Eh bien là encore, regardez Jésus. Regardez le comportement de Jésus tout au long de ce récit. Il vient juste de traiter tout le monde de génération incrédule. Mais qu'est-ce qu'il dit immédiatement après? Amenez-moi l'enfant. Amenez-moi l'enfant. Il guérit le fils de quelqu'un d'incrédule qui ne croit à peine. Il vient au secours de cette foi minuscule. Voyez la sollicitude et la bienveillance de Jésus dans ce récit. Et c'est pareil avec les disciples. Les disciples, quelle honte! Les disciples qui comptaient sur leur propre force, qui n'avaient même pas prié Dieu, et qui croyaient que tout simplement ça allait fonctionner. Les disciples complètement emprisonnés dans cette querelle d'ego avec les spécialistes de la loi au début, eh bien Jésus est bon avec eux. Il continue à les enseigner et à les prendre pour les faire progresser. Quelle bonté, quelle sollicitude de Jésus. Donc on a nos deux preuves pour répondre à cette question. Si la souffrance existe, si le mal existe, est-ce que ça ne remet pas en question Dieu? Eh bien non. On a assisté à la toute-puissance de Jésus qui a guéri d'une simple parole. Et on a assisté à la bonté de Jésus envers le Père, envers l'enfant et envers les disciples. Qui nous invite à croire? Résumé, c'est Jésus. Jésus dont la puissance est sans borne, Jésus dont la compassion et la bonté sont sans borne également. Nous devrions tout miser sur cette personne-là, Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Alors tout est possible à celui qui croit, ce n'est pas un chèque en blanc que toutes nos prières seront accomplies. C'est exactement ce que Laurence a dit tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est la certitude qu'il accomplira toutes celles qui sont conformes à sa volonté. Et ici, c'était sa volonté de guérir cet enfant et de faire grâce à cette famille entière. Il a la bonté et la puissance nécessaires à tout. Alors après ces deux questions, la première qui était « Pourquoi avons-nous besoin de croire ?» Parce qu'il y a de l'espoir. Maintenant, qui nous invite à croire? C'est Jésus et c'est très sérieux. On passe à la troisième et dernière question. En quoi Jésus veut que nous croyions? Est-ce que ça suffit de croire à l'existence de Jésus? Est-ce que ça suffit de croire qu'il nous veut du bien? Est-ce que ça suffit de croire à sa force, sa puissance ou à sa présence dans nos vies? La réponse est clairement non. On le voit au verset 31 du chapitre 9. Qu'est-ce qu'il enseigne à ses disciples, Jésus, quand il est juste avec eux? Il enseigne deux choses, sa mort et sa résurrection. Et ça devient comme un leitmotiv de l'enseignement de Jésus. À chaque fois, il prend ses disciples à part. Et de quoi leur parle-t-il? De sa mort et de sa résurrection. Et c'est ça qui est crucial à croire pour nous. Jésus veut que nous comprenions sa mort et sa résurrection. Et on va voir ensemble que même la guérison de cet enfant, elle est au service de la mort et de la résurrection de Jésus. Regardez le verset 26. Versets 26 et 27. L'enfant resta comme mort. Si bien que la plupart des témoins disaient « Il est mort !» Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. C'est pas un hasard si il y a deux fois le mot « mort » dans le verset 26 et deux fois le mot « ressuscité » dans le verset 27. Parce que là, ce qui ne se voit pas en français se voit de façon admirable en grec. Là, ici, il le fit se lever, il se tint debout. Ce sont les deux mêmes verbes qui sont utilisés régulièrement pour parler de la résurrection de Jésus dans tout le Nouveau Testament. Donc, de quoi est-il question à travers la délivrance de cet enfant? Il est question, plus loin, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Marc le fait de cette façon-là, en réutilisant exactement les mêmes mots qui correspondent à l'expérience à venir de Jésus, sa mort et sa résurrection. Dans ce récit, c'était bien la question du mal et de la souffrance qui avait émergé. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Si Dieu existe, pourquoi la souffrance de cet enfant? Pourquoi l'impuissance traumatisante de ce père? Il n'y a pas de réponse à ces questions. Jamais la Bible ne donne de réponse à ces questions. En revanche, la Bible nous donne la solution à ces deux questions. Il n'y a pas de réponse, mais il y a bien une solution pratique. Et cette solution pratique, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'alors, à ce moment-là, à la fin des temps, quand Jésus partagera avec nous sa résurrection, c'est ce qu'il assure pour les croyants, le problème du mal aura trouvé sa solution finale. Nous aurons des nouveaux corps qui ne connaîtront plus la souffrance, ni le mal, ni la mort. Et je vous cite juste ces paroles de l'Apocalypse, cette vision que Jean a eue. Dieu habitera avec les hommes, ils seront son peuple, et Dieu sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Voilà ce que Jean a vu par avance pour nous donner de l'espoir, et c'est cet espoir auquel se rattachent les chrétiens de par le monde. Jésus mort pour nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné par Dieu, ressuscité pour qu'on puisse être déclaré juste et vivre avec lui une vie éternelle qui prendra un corps nouveau à la fin des temps, lorsqu'il reviendra nous chercher. Voilà en quoi Jésus veut que nous croyions, en sa mort et en sa résurrection. Alors quelques mots de conclusion. Déjà, souvenons-nous du diagnostic de Jésus. Le diagnostic de Jésus, c'est que l'incrédulité, c'est notre problème à tous. Et souvenons-nous aussi de comment il nous tire par le haut, comment il nous fait sortir de la question de l'incrédulité. Pourquoi sortir de l'incrédulité ? Parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Pourquoi sortir de l'incrédulité ? Parce que c'est Jésus qui nous y invite, et il est tout puissant, et il est bon. Pourquoi sortir de l'incrédulité ? Parce qu'il y a sa mort sur la croix, et sa résurrection, qui appelle la nôtre, plus tard. Et ça, c'est une super raison de sortir de l'incrédulité. Alors ce que je vous propose, c'est de reprendre nos trois catégories du début, et voir ce que ça change pour nos trois catégories. Peut-être que tu fais partie des indécis, peut-être que tu es à la frontière entre la foi et le scepticisme et que tu ne sais pas très bien où t'en es. Peut-être que tu ne sais pas si Jésus est vrai, si ce qu'il a dit est vrai, si ce qu'il a fait est vrai. Et bien, je voudrais t'encourager à te demander s'il n'est pas temps de placer ta foi à 100% en Jésus. Regarde ce qu'il a fait à cet enfant. Regarde ce qu'il a fait à ce père. Il est tout puissant pour changer ta vie et il t'aime. Alors si tu es indécis, ben, vas-y, lance-toi. Si tu fais partie des sceptiques, je voudrais te demander, est-ce que tu as pris le temps vraiment de te renseigner sur qui est Jésus ? Peut-être qu'un jour ton prof de philo t'a dit que Dieu n'existait pas. Ou peut-être qu'au contraire, ta maman ou ta grand-mère ou ton curé t'avait dit « Si, il existe et il faut croire en lui. » Je voudrais juste t'encourager à réfléchir par toi-même. Et lire la vie de Jésus. Lis la vie de Jésus et fais-toi ta propre opinion concernant Jésus. Et puis, peut-être que ton problème, c'est que quand tu regardes les chrétiens dans les églises, tu n'as plus du tout envie de croire. Ça, c'est possible aussi. Eh bien, sache que c'est exactement ce qui est arrivé dans notre passage. Les disciples, ils ont foiré leur exorcisme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les spécialistes de la loi ? Eh bien, ça a renforcé leur incrédulité. Donc, quand tu vois les chrétiens, si tu n'as pas envie de croire, sache que tu n'es pas le premier. C'est déjà arrivé aux spécialistes de la loi, il y a 2000 ans, dans cet épisode de la vie de Jésus. C'est vrai que nous, église locale, ici à Pau, eh bien, on n'a aucune prétention ni aucune confiance en nous-mêmes. Livrés à nous-mêmes, on est très faibles. Mais le peu de confiance que nous avons, nous le mettons en Jésus-Christ. Et enfin, si tu fais partie des croyants, si tu te considères comme disciple de Jésus, eh bien, est-ce qu'il ne serait pas temps pour toi de te repentir de ton incrédulité ? Je m'explique. Et je voudrais vous dire que je m'inclus dans ce constat-là. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon du haut de la chair. Rien à voir. Je m'inclus parce que je constate combien j'ai tendance à tout faire dépendre de moi. Et comme ça m'arrive, je suppose que ça vous arrive aussi. Je néglige la prière. Je ne cherche pas toujours à dépendre de Dieu et à lui demander des forces quand je fais quelque chose. La prière, c'est pourtant l'expression tangible de notre dépendance à Dieu. On a beau venir à l'église, on a beau enseigner aux autres, je parle pour moi en particulier, est-ce que dans les faits, on ne vit pas trop souvent comme des incroyants ? En tout cas, moi, c'est la question que m'a posée ce récit. Est-ce que dans les faits, je vis véritablement 100% de ma vie comme si je croyais en Jésus ? Et la réponse est dramatique, c'est celle de Jésus au début du passage. Génération incrédule. Alors, je voudrais vraiment personnellement dire merci à Jésus ce matin. Merci à Jésus parce que, en guérissant cet enfant, il m'invite et il t'invite à faire un pas de foi supplémentaire et à mettre encore plus ta foi en Jésus, miser sur la bonne personne. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon manque de foi. Amen.